Donc je suis effectivement obligée de charger l'ordinateur qui n'a pas résisté quand même à toute la journée. Alors effectivement, il m'avait été demandé de faire une synthèse à l'issue de cette journée. Et c'est particulièrement difficile puisque c'est un exercice que je vais faire donc directement à chaud sans avoir un temps de préparation. Et finalement, ce midi, je me disais que cet exercice de synthèse à chaud s'inscrit finalement dans bien notre société de l'immédiateté. Ce qui finalement est quand même contradictoire avec ce que je défends moi-même, malgré toutes les contraintes de notre société, c'est-à-dire le temps de la recherche, le temps de l'élaboration d'une idée, et que ce temps-là, c'est un temps long. Et il faut se battre pour le faire accepter et qu'on comprenne effectivement que la maturation de l'idée, elle est certes dans une forme initiale de jaillissement, mais qu'après ce jaillissement demande du travail, une concentration, et que ce temps-là, aujourd'hui, est très compliqué à légitimer auprès de nos employeurs, auprès de nos financeurs, etc. Et que ce temps de la maturation de l'idée, en fait, c'est ce qui permet effectivement de mettre en forme un chaos, hein, qui est en effet ce jaillissement qu'on peut avoir de temps en temps, hein, quand on a de la chance. Hein. Ce n'est pas tous les jours non plus qu'il y a un jaillissement d'une idée puissante qui nous arrive. Néanmoins, quand ça arrive, ça ne suffit pas. Hein. Et ce que je me tue à dire aussi à mes étudiants, c'est que la recherche, c'est du travail. Voilà. Du travail, des lectures, et pas seulement rester devant la page blanche ou l'écran vide, devant ou derrière son bureau. Et que ce temps-là, finalement, pour que s'élabore une pensée articulée, qui est donc forcément un temps qu'on arrive peu à maîtriser, hein, ce temps est également nécessaire pour que cette pensée articulée puisse aussi être transmise. Et finalement, ce n'est pas un hasard si je commence cette synthèse par cette réflexion très, très personnelle aussi, hein, très intime finalement sur mon rapport personnel actuellement au temps, hein, ou plutôt à sa contraction, puisqu'en fait le récit, on l'a dit un petit peu au cours de cette journée, puis je l'avais rappelé effectivement dans l'introduction, le récit c'est une structuration de l'expérience temporelle. Et c'est quand même ce qu'on a retrouvé à différents temps des interventions. Quand Émilie Renard nous présente l'exposition « Tes mains dans mes chaussures » en insistant sur le temps long de cette démarche, sur le temps qu'elle a offert aussi aux artistes pour expérimenter, et que ce temps long, nous disait-elle, permet finalement cette mise en commun, cette mise en relation. Tout à l'heure, Julien a également noté le temps de la recherche et il l'a associé assez immédiatement au temps de l'erreur, hein, donc de l'expérimentation et du ratage. Or, dans notre société, la notion de ratage est peu encouragée, peu valorisée. Donc finalement, si j'étais cohérente avec ce que je viens de vous dire, je fermerais mon ordinateur, je vous inviterais à une minute de silence, à prendre le temps en soi-même de voir qu'est-ce que cette journée vous a fait, vous a mobilisé, vous a également peut-être voilà, déporté. Et puis, nous finirons peut-être par prendre un verre en terrasse. Le temps s'y prête assez mal. Mais en tout cas, je ne m'efforcerai pas ou je ne m'aventurerai pas dans la poursuite de mon propos. Et finalement, ça serait aussi peut-être une forme de happening. Malheureusement, j'ai pas trop de talent performantiel ni de happening. Je n'ai pas le talent de Florence Marquerolles qui s'est prêtée à cette performance avec beaucoup de gaieté en parlant de son statut. Donc finalement, je vais de manière très scolaire, en fait, hein, très dans mon rôle, dans mon statut, poursuivre et essayer de vous donner quelques éléments effectivement concernant. Concernant ce qui m'a intéressé dans cette journée, mais aussi ce que j'ai vu en termes de liens, hein, entre les différentes interventions. Et la première observation qui me rassure, en fait, quelque part, c'est qu'on a beaucoup parlé du contexte numérique, mais finalement, on s'est aussi beaucoup posé la question du rapport à l'écrit. Donc ce matin, avec la conférence de Magali, on a vu le succès, finalement, du rapport au texte dans l'art contemporain, ce succès du retour à la littérature, et une littérature qui a perdu ses oripeaux institutionnels, nationaux aussi, de valorisation d'une culture nationale, pour finalement passer au travers d'outils, de supports qui la réinterrogent et qui finalement en fait un outil extrêmement souple pour faire récit. En revanche, avec la conférence de Luc Baptiste, on s'est plutôt posé la question de déjouer une difficulté de l'écriture. Et la piste quand même principale que moi j'ai retenue de son exposé est finalement de passer par l'oralité. Par l'oralité pour aller vers une écriture, donc passer finalement de cette mise en commun orale pour l'expérience d'une écriture plus individuelle, plus personnelle. Et effectivement, on a vu avec ce croisement entre ces deux propos toute la potentialité des liens que l'on peut tisser entre pratique artistique et écriture. Et d'ailleurs, ça a été souligné par une intervention dans la salle à la fin de l'intervention de Luc Baptiste. Le deuxième élément saillant, c'est le lien, l'articulation entre récit et politique. Alors évidemment, on le voit de manière, j'allais dire, explicite dans les propositions des trois artistes que Magali nous présentait, où effectivement, par différents supports, grâce à différents médias, les artistes nous donnent à voir une vision critique du monde qui interroge en creux, effectivement, un récit national. Donc là, on voit bien que cette question du récit national, elle est quand même largement interrogée. Elle est aussi, je vous rassure, interrogée par les historiens eux-mêmes. Donc, interroger en creux, finalement, les manques d'une histoire et peut-être ouvrir sur un propos un peu moins national et franco-centré. Voilà. Et dans cette même perspective, ce qui me semblait intéressant dans les propos de Luc Baptiste, c'était que le récit, finalement, amenait la question du lien social. Donc, c'est une question éminemment politique, que l'activité langagière, je reprends ces termes, permettait donc la possibilité d'un réglage social, c'est-à-dire qu'en fait, de devenir acteur au sein de la société, de s'instaurer comme un agent dans le lien social, et donc effectivement de prendre une place de citoyen, ce qui est bien sûr une des fonctions principales, sinon première de l'école, mais que nombre quand même d'artistes et d'institutions culturelles partagent cette question de la citoyenneté et du lien social par la mise en commun de récits et la fonction même en fait de l'art. Et à un autre niveau en fait, on a vu comment cette question finalement citoyenne, politique, pouvait être aussi retravaillée à partir donc de cette performance, la Super Performer en 2017 de Violaine Lochu, où on voit bien comment l'articulation entre un récit individuel et un récit collectif permet de donner voix aussi à des personnes qu'on entend peu ou pas. Donc comment le récit et la maîtrise du récit est un enjeu éminemment politique et évidemment dans notre société quand même traversée par des soubresauts de violences physiques mais aussi de violences symboliques, il me semble que le récit est une réponse aussi politique qu'il faut faire et ce récit passe quand même par la maîtrise du langage et donc je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la maîtrise de la langue. Voilà, et que cette langue, Foucault nous l'a suffisamment dit, c'est un enjeu de pouvoir. Et qu'au sein de notre société, ce qui se joue aujourd'hui, me semble-t-il, c'est bien une question de qui a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, c'est celui qui maîtrise la langue. Une autre question qui est ressortie, qui voilà, m'intéresse tout particulièrement, c'est la question de l'éthique, où effectivement, Luc Baptiste rappelait que le fait de raconter induisait une position éthique, puisqu'on adoptait un point de vue. Et j'ai été aussi très sensible dans ce que Florence Marquerolles nous faisait, nous laissait à réfléchir, hein, en partant de cette question de l'enjeu de loyauté du médiateur. Éthique, bien sûr, par rapport à l'artiste, mais j'ai aussi envie de dire que l'artiste aussi se pose ces questions d'éthique. Et là, je fais un petit peu lien avec l'expérience d'hier, où, pour avoir participé à l'atelier de Céline Aon, elle insistait beaucoup là-dessus, sur cette question de l'éthique de l'artiste, notamment quand il travaille avec un public dans des formes, effectivement, d'exposition personnelle. Jusqu'où va-t-on ? Voilà, donc l'éthique du médiateur par rapport à l'artiste, mais c'est une question qui aussi travaille l'artiste lui-même. Éthique par rapport au respect du projet curatorial. Et c'est vrai que les deux interventions là, d'Émilie Renard et de Florence Marquerolles nous donnaient une belle explicitation de cet enjeu, mais aussi éthique par rapport aux visiteurs, par rapport aux spectateurs. Et cette éthique se déclinait, d'après ce que j'ai entendu, et j'ai aussi entendu beaucoup ça à l'occasion de la dernière table ronde, par une attention à la personne, une attention à la personne à qui le médiateur s'adresse. Et cette position d'écoute renvoie, pour moi, à l'affirmation et à la légitimation, également le terme qui a été assez souvent utilisé, de la subjectivité. Subjectivité de chacun. Subjectivité, bien sûr, du spectateur, du récepteur, et subjectivité du médiateur. Donc, on pourrait dire que la médiation, la transmission, est une rencontre de subjectivité. Nous sommes très, très loin, bien sûr, d'une conception verticale de la médiation, où quelqu'un qui détient la légitimité du discours inculque à quelqu'un qui en est privé le bon discours, le discours juste. Et la question de la subjectivité parle donc de la place du sujet et rencontre à cet endroit-là la question de l'appropriation, c'est-à-dire l'enjeu, hein, on le disait, de faire sien un objet, un artefact, une situation. Et je trouve que là, la table ronde sur laquelle nous avons fini la journée est un bien bel exemple de cette question de l'appropriation. Philippe, d'ailleurs, a utilisé ce terme, a interrogé les invités avec ce terme-là. Et pour moi, on est vraiment dans l'appropriation, bien sûr. Quand on invite un enfant, enfin un élève, je ne sais pas comment le définir, voilà, un individu, que ce soit un élève ou un adulte, c'est pareil, un individu, à donner sa propre vision d'une œuvre par le détour d'une histoire, là en l'occurrence d'une histoire mythologique. C'est ce que donc Julien nous rappelait tout à l'heure, en rappelant aussi la valeur des fictions, donc la valeur du discours qui va être émis par ce récepteur, par cet individu. Donner valeur au discours de l'autre. Voilà. C'est ce qui me semble aujourd'hui au cœur de cette éthique aussi de la médiation. C'est aussi ce que Jérôme, en tant qu'enseignant, proposait en disant peut-être arrêtons de nous focaliser sur l'intention de l'artiste. Certes, nous avons été baignés dans un culte de l'artiste, du génie de l'artiste, mais donnons peut-être aussi la possibilité à l'élève de rendre compte de l'observation de cette œuvre, de ce que ça lui fait à lui. Donc, d'insister finalement sur la question de la réception. Et cette double question de l'éthique, de la subjectivité, conduit à concevoir finalement la transmission et la médiation, et je dirais plus encore la médiation, comme un espace de partage. Inviter le récepteur dans un rapport personnel à l'œuvre et un rapport légitime à l'œuvre. Or, on le sait quand même, la démocratisation de la culture, élaborée à partir de 1959 dans le cadre du ministère des Affaires culturelles, ne pose pas la question de la légitimité ou ne la pose que dans un dans un seul sens, c'est-à-dire de la légitimité de celui qui détient le savoir. Et là, tout ce qu'il me semble avoir été au cœur de nos échanges, c'est justement ce partage entre des discours posés à un niveau, j'ose pas dire au même niveau, parce que je ne suis pas forcément pour un relativisme total, mais en tout cas où la question de la légitimité ne se pose pas en termes de hiérarchie. On parle d'endroits différents, mais ces endroits ne sont pas forcément à concevoir dans une structure hiérarchique. Alors, en conclusion, je vous avais un peu promis de reprendre l'hypothèse que j'avais formulée au départ, donc sur finalement l'intérêt du récit. L'intérêt du récit, donc, qui serait parce qu'on passe par ces effets de refiguration, et donc ça permettait une meilleure appropriation. Je ne suis pas sûre que, finalement, qui est une hypothèse théorique, hein, et que, voilà, qui nécessiterait justement un petit peu plus de temps pour le déplier. Hein. En revanche, un des éléments que moi j'ai entendu aujourd'hui, et je n'avais donc pas fait la synthèse avant la journée, donc c'est aussi pour ça que voilà, je m'appuie plus sur ce que j'ai perçu et entendu que sur cette réponse théorique que je pourrais élaborer. Ce qui me paraît donc intéressant en fait dans le récit, c'est le fait que le récit respecte ce que j'appellerais un temps humain, c'est-à-dire le temps de la pensée et le temps de la sensibilité, et que ce temps du récit permet de créer effectivement ce contexte de familiarité conduisant à une forme ou des formes d'appropriation. Et que ce contexte de familiarité, qui est favorisé par ce temps long, permet de déjouer finalement aussi des usages mercantiles, démagogiques du storytelling. Des usages aussi de confort. Et que donc finalement, le récit, ce temps long du récit, pourrait apparaître comme un lieu de résistance contre ce que Armut Rosa a nommé donc, l'accélération sociale. Et c'est voilà, en vous écoutant en fait, lors de la dernière table ronde que m'est revenu ces travaux qui datent déjà, qui ont une bonne vingtaine d'années, je pense, d'Armut Rosa, qui s'inscrit dans une perspective de sociologie critique de la quatrième génération de l'école de Francfort, où il dit en fait que le temps s'accélère, mais que c'est surtout le sentiment du temps qui s'accélère chez nous, chez les individus de nos sociétés, en fait, cette impression que l'espace du présent se rétracte et que, finalement, nous n'avons plus le temps. Et que ce sentiment de cette accélération sociale naît, bien sûr, d'une accélération technique. Et là encore, on a parlé de ces usages du numérique. Donc, bien sûr, le numérique étant la dernière révolution industrielle majeure, donc une accélération technique, bien sûr, mais aussi d'une accélération du nombre d'actions que nous effectuons chaque jour, et aussi d'une superposition des actions et de nos tâches. Ce que j'ai fait tout au long de la journée. Voilà, donc c'est cette capacité, cette manière aussi de concevoir nos responsabilités aujourd'hui, notre quotidien, qui fait que nous sommes capables, effectivement, de multiplier les tâches, c'est-à-dire être dans l'écoute, mais aussi dans cet enjeu d'une restitution. Donc, cette accélération sociale, qui est, pour Armut Rosa, une forme d'aliénation, une aliénation individuelle et collective, mais aussi politique. Eh bien, moi, ce que je retiendrai de cette journée, mais aussi plus largement des deux jours, c'est que parler du récit, faire des tours par le récit, explorer des expériences d'éducation artistique et culturelle qui revendiquent ce temps, qui en ont aussi les conditions, bien sûr, conditions financières, matérielles, eh bien, est une forme de résistance à ce qui nous est de plus en plus imposé dans notre société contemporaine. Voilà, donc à ce titre-là, personnellement, je vous remercie pour ce temps justement de réflexion. Et puis, je vous souhaite une bonne, voilà, une bonne suite et une bonne soirée.
Marion, merci pour cette contraction du temps et cette synthèse plus qu'habile et intéressante qui remet en perspective l'ensemble des questionnements qui ont été élaborés sur cette journée. Ce que je vous propose juste pour finir, c'est de, au carrefour de la question de la ressource et de celle du récit, et en écho à ce que vient de dire Marion, c'est de dilater le temps, puisque nous sommes co-détenteurs ensemble du contenu de cette journée. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'inventer le récit qui va venir. Donc, on va se donner du temps pour l'avenir, pour colporter, pour transmettre ce que nous avons vécu ensemble, ce que nous avons entendu, ce que nous avons pu partager, aussi dans la lignée de Julien, puisque le conte est aussi de l'ordre de la transmission orale. Donc, entamons ce récit, situons-nous dans l'histoire de la médiation, de ces espaces, de nos espaces de travail professionnel, et transmettons, colportons, partageons ce savoir, cette ressource que nous détenons aujourd'hui. Un proverbe oriental dit que le récit de la fête, c'est déjà la moitié de la fête. Et je vous propose de s'emparer de ça pour continuer demain, après-demain, et de déplier le temps avec ce que nous avons reçu aujourd'hui pour nourrir nos pratiques professionnelles et nourrir cet espace de citoyenneté que sont les formes de médiation avec l'ensemble des publics. Vous aurez de nos nouvelles très rapidement, puisque nous tiendrons nos promesses sur le partage numérique de l'ensemble des données. Je vous souhaite un très bon retour. Je remercie tous les intervenants qui se sont livrés à l'exercice. Et puis, je vous redis à très bientôt dans de multiples carrefours, rencontres, vernissages. À très bientôt. Merci.